voilà. Et quand je dis des bêtises, je vois tout de suite qu'il y a un problème dans le regard des gens. Bien, donc, comme d'habitude, à cette période de l'année, nous vous proposons le programme que nous avons bâti, que j'ai dit bien nous, le comité des programmes, vous savez comment ça fonctionne. Donc, on a un groupe de 6 qui ont différentes sensibilités, et puis on discute de ce que l'on va faire l'année suivante, les thèmes, les sujets. On discute avec nos conférenciers, on va dire, habituels et locaux, qui ont bichonne, évidemment. Et puis, on essaye tous les ans de retrouver quelques nouveaux thèmes et quelques nouveaux intervenants. Donc, on attaque tout de suite. Donc, un petit retour sur le passé. Finalement, on est quand même sorti du Covid, comme tout le monde, et les perturbations liées à l'organisation ou au confinement, les choses comme ça, bon, on est un peu sorti de tout ça, et globalement, la saison s'est bien passée. Il y a eu quelques annulations, mais il y a toujours des petits loupés au cours de la saison, mais rien de significatif. Alors, il y a un changement notable, c'est le fait, vous le savez, Françoise, la concierge ici, donc elle a pris sa retraite, elle n'a pas été remplacée, et donc on s'est inquiété à l'époque comment ça va se passer. Alors finalement, avec le recul, maintenant ça se passe pas si mal que ça, puisque finalement nous avons la maîtrise des clés, et donc de l'heure d'ouverture, de l'intendance, les boutons pour allumer les lumières, de les éteindre, etc. On met tous les accessoires dans ce petit placard qui est ouvert là, donc le micro, la télécommande du vidéoprojecteur, enfin les accessoires qui appartiennent à la salle, qui ne sont pas nos accessoires. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu un petit problème, c'est que le câble micro, il est manifestement cassé. Heureusement qu'on en a un de rechange dans notre caisse, donc, et puis ça fonctionne. Donc la mauvaise nouvelle, vous la connaissez, on en a parlé à différentes reprises, c'est qu'on n'a pas remonté le niveau des adhésions par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire il y a toute une tranche de personnes qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas renouvelé leur cotisation. Alors ça nous met en difficulté encore une fois. Mais ça, c'est aujourd'hui, c'est pas l'âge, hein. J'en parle simplement comme ça. Donc, on est quand même au ras des moustaches. Et on a été obligé de réajuster les tarifs pour l'année prochaine parce que, comme tout le monde, nos charges augmentent. En particulier, le salaire de notre secrétaire, qui est au ras des pâquerettes, eh bien, elle a suivi les augmentations décidées au niveau gouvernemental, bien évidemment. Donc on a fait plus de... On l'a augmenté sur un an de 13%. 13%. Voilà. Donc ça se voit dans nos comptes, etc., etc. Je ne veux pas vous faire chialer. Donc on repart pour une nouvelle année. Et voilà les thèmes que nous vous proposons pour l'année qui vient. L'histoire de l'art, on en parle toujours. Les grands changements de la Révolution française. En discutant dans les premières réunions, je me suis dit, ben, la Révolution française, c'est, comme on dit dans la presse, un marronnier. C'est-à-dire, si on ne sait plus quoi dire, on parle de Révolution française. Puis j'ai recherché dans nos archives, on n'a jamais fait de thématique générale sur la Révolution française. Alors, évidemment, les profs d'histoire, ça leur donne des mauvais souvenirs. Parce que la Révolution française... en lycée, on en a ras la casquette. Alors, comment faire pour intéresser les adhérents de l'UTB sur la Révolution française? Donc, on vous fera grâce de l'événementiel. Parce que là, Marat, Robespierre et tutti quanti, on a cité que quelques personnages à l'occasion d'autres thèmes qui sont intervenus pendant la Révolution française. Et on essayait de trouver des thèmes transversaux un petit peu nouveau, et on en parlera quand on sera sur cette séquence. Le contexte de la guerre en Ukraine, alors c'est le nouveau marronnier dans les médias, c'est-à-dire vous n'avez qu'à dire Ukraine, à tous les coups ça marche. Je rappelle que quand M. Comte est venu le 1er avril 2022, donc c'était un mois après le début de l'invasion, on a fait 235 personnes ici. Et il y a des gens qui sont sortis parce que c'était plein comme un œuf. Hein. Donc manifestement, tout le monde est bien conscient de l'importance de cet événement. Autre thème, histoire de l'égyptologie. Alors là, on ne pouvait pas y échapper, tout simplement parce que on a notre Denon local, qui est la figure iconique de l'égyptologie, qui a un peu lancé la chose, mais vous verrez, on en a trouvé d'autres qui sont intéressantes. Les changements dans la période actuelle, c'est aussi un troisième marronnier dans les médias, c'est-à-dire tout change tout vite, tout change très vite, et ça change, et qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va faire la pitié de l'UTB, et on va essayer d'avoir des discussions sur ces thèmes-là. Comme disait M. Churchill, quand on cherche quelqu'un qui a donné une citation, on dit toujours Churchill. On est sûr de... À tous les coups, ça marche. Ou si vous n'avez pas Churchill dans la poche, vous avez Voltaire dans l'autre poche. Donc il a dit, la prévision est un art difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Voilà, bien évidemment. Un sujet exotique, alors, l'histoire de l'érotisme. Vous voyez, ça convient très bien à notre génération. Hein. Et donc, c'est notre ami Stéphane Lecouedi qui nous propose, enfin, qui me insiste pour faire cette chose-là, essentiellement à travers la littérature et l'histoire de l'art, donc depuis l'Antiquité, et surtout l'image qu'a ce thème de l'érotisme vis-à-vis de la société. Autant c'est accepté assez bien dans certaines époques et dans certaines civilisations qui sont complètement différentes des nôtres, autant, vous le savez très bien, dans la civilisation occidentale, c'est passé par des hauts et des bas. Et les évolutions récentes dans les sciences du vivant, puisque les sciences du vivant, depuis déjà plusieurs années, on a quelques bons spécialistes qui vous parlent de l'ADN et tout ce qui tourne autour, l'immunothérapie, etc., etc. On y va. Histoire de l'art. Dix-huit conférences. Voilà, je vous laisse lire. Comment ? Ah, vous n'avez pas le temps de lire. Alors. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de venir au niveau des planchers des vaches parce que j'ai senti qu'il y avait un problème. Donc, voilà, vous avez le temps de lire. Mais je vous... voilà. Ça va ? Alors, on a trouvé une excellente conférence pour commencer le thème. C'est « Qu'est-ce que l'art ?» Et ça, j'ai recherché dans les archives de l'UTB. Eh bien, à ma connaissance, personne n'a essayé de répondre à cette question. Alors ça, c'est un grand thème, les Vitruve, les Wittgenstein, des choses comme ça, qui ont essayé de répondre à ce type de question. Et maintenant qu'on est copains avec le couple Kersaudy, eh bien, madame... m'a dit à l'occasion d'une discussion comme ça qu'elle avait préparé cet exposé, ben, je dis, écoutez, venez nous le faire. C'est pas du tout le style de monsieur, hein. Je vous rassure tout de suite. Donc, notre ami Cyril Brunet, notre architecte, qui nous fait l'histoire de l'architecture moderne, enfin du XXe siècle, nous propose la maison Horta à Bruxelles, donc c'est l'art nouveau, et puis le Bauhaus. Annie XP l'avait fait il y a une certaine époque, alors lui ce sera plus orienté, puisque le terme de Bauhaus, c'est-à-dire ceux qui ont fait de l'allemand, ça veut dire la construction, quoi. La construction des bâtiments, la construction des maisons, Bauhaus. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une image où le nom est marqué sur le bâtiment. Donc comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, parce qu'il y a toute une composante, disons, picturale du Bauhaus. Binette nous propose la Sainte-Chapelle. Ah, vous allez comprendre pourquoi, je vous le dis comme ça à brûle-pourpoint, il l'a proposé spontanément. Évidemment, c'est en arrière-plan l'histoire de Notre-Dame. Et je vous le dis avant de vous montrer l'image, on aura une conférence sur Notre-Dame de Paris et sa reconstruction, bien évidemment. D'ailleurs, c'est la suivante. Alors, pour faire ça, il a fallu trouver une personne compétente. Alors, je n'ai pas les réseaux suffisants auprès de M. Macron ou des généraux qui s'occupent de ça pour avoir des gens qui viennent de Paris pour nous parler Notre-Dame de Paris à Châlons. Par contre, j'ai quelqu'un que je connais bien, c'est Jean-Denis Salvec. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui est à Cluny, qui est le chef des études clunisoises et qui est un érudit sur tout ce qui concerne Cluny. Mais là, il est sorti un petit peu de son domaine habituel de travail et il a accepté de nous faire cette conférence. Et puis, en musique, alors celui-là, ça fait des années qu'on envisage de pouvoir faire une conférence dessus. Alors, est-ce que vous connaissez Joseph Touchemoulin? Eh bien, vous viendrez écouter la conférence et par M. Patrick Ayrton. Voilà un nouveau conférencier, British, et qui est chef d'orchestre, claveciniste, qui habite dans la région. Et Joseph Touchemoulin, ben, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est né à Châlons. Voilà, et c'est un musicien du XVIIIe siècle, dans le style de Haydn, des choses comme ça. Il a fait des quatuors, il a fait des choses très bien. Et puis, sa vie, alors là, il a fait l'essentiel de sa vie en Allemagne, enfin, qui n'existait pas à l'époque, enfin, dans les pays germaniques. Et on a retrouvé récemment, enfin, il y a quelques années, sa tombe. Je ne sais plus, c'est pas Magdebourg aussi, je ne me souviens plus où c'est. Et donc, le meilleur spécialiste connu de ce musicien, c'est Patrick Ayrton. Alors, voilà un thème transversal en musique. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter sur la Révolution? Quand j'ai posé la question à notre musicologue de service, Joël Farinck, elle était un peu embarrassée. Elle a dit, bah, si je vais vous faire des choses pour voir... finalement, c'est un processus continu. On ne peut pas dire que la Révolution était un point de rupture dans l'histoire de la musique. Mais il y a une composante particulière qui sont tous les chants révolutionnaires, c'est pour ça que j'ai choisi cette image. Mais dans la musique, on va dire classique, comme on l'appelle maintenant, concertante, c'était Gluck, qui était à la mode juste avant, à l'époque, Gluck, Mozart... Et puis après, ben c'est le début du romantisme, mais pas tellement en France, plutôt dans les pays germaniques. Jean-Luc Fevra, qui nous a fait du théorbe l'année dernière, enfin la saison dernière, comme c'est un instrumentiste tout à fait compétent, et en plus il prend sa retraite, donc il a du temps pour faire des conférences maintenant à l'UTB. Donc je rappelle qu'il a été au départ régisseur du conservatoire. Ces derniers temps, il s'occupait de la bibliothèque de partitions musicales. Et donc il prend sa retraite. Et vous voyez, la viole de gambe, ben, c'est l'ancêtre du violoncelle, avec beaucoup plus de cordes. C'est vachement compliqué à jouer, des doubles cordes, des choses comme ça. Donc il vous en parlera, mais surtout il vous jouera de la viole de gambe. De gambe, la jambe, bien sûr. Alors Stéphane Varnet, qui maintenant, je rappelle, est le directeur adjoint du conservatoire, qui nous fait des conférences, donc toujours un duo, une conférence classique à la sauce UTB, c'est-à-dire soit une œuvre, soit un musicien célèbre, voilà, et ensuite une conférence-concert qu'il fait en général le vendredi soir à l'auditorium du conservatoire, qui est en fait une présentation d'un concert qui aura lieu le samedi après-midi ou le samedi soir. Et donc là, ça marche très bien. on a en général 60 personnes qui viennent là, et ça fait un appel d'air, si vous voulez, pour le public du jour suivant. Je rappelle, bien sûr, vous le savez tous, on a d'excellentes relations avec le conservatoire. La meilleure preuve, c'est que notre fameux anniversaire que j'ai annoncé déjà le 26 octobre, on va le faire à l'auditorium du conservatoire, et disons pour nos beaux yeux, c'est-à-dire ça ne nous coûte rien. Ça, c'est une affaire qui marche. Donc c'est ce qu'on avait déjà fait pour les 30 ans, et donc on va essayer de faire une scénographie un petit peu différente de ce qu'on avait fait, mais pour le moment c'est top secret, donc on vous dévoilera le programme des réjouissances le plus tard possible. Ah, j'ai oublié, voilà. Ah, j'ai loupé ça. Daniel Weissmann, tout le monde connaît Daniel Weissmann ? Beaucoup. Il a été très longtemps ici responsable d'une association qui s'appelait Mosaïque, qui proposait des concerts au conservatoire ou à l'Espace des Arts, et après il est allé à Dijon, et finalement il a fini sa carrière comme directeur de l'Orchestre Royal de Liège, poste très important. Il est passé souvent à la télé, je ne sais pas si vous l'avez vu dans des reportages, c'est un bon copain, donc il a tout ce qu'il faut pour plaire, et il prend aussi sa retraite, donc il peut venir faire des... Et il habite à Châlons, hein, quand il n'est plus à Liège, donc il nous fera ça, et il va essayer de nous faire comprendre comment on mélange le business et l'art. Et ça, c'est un mélange difficile et détonnant dans les milieux artistiques. Et Daniel Weissmann, il a une qualité, c'est qu'il sait faire les deux. Et en général, c'est très classique, dans tous les organismes culturels, c'est les gestionnaires qui se bouffent avec les artistes. Parce que la logique artistique, c'est pas la même que la logique, évidemment, gestionnaire. Lui sait faire les deux. Il est bon, c'est pour ça qu'il a été choisi pour être le directeur à Liège. Alors, la peinture. On va prendre quelques vedettes incontournables qu'on n'a pas fait. Alors là aussi, quand on fait nos programmes, on révise un petit peu dans les 15 ou 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait ? Oh, c'est quand même marrant. Bruegel, eh bien, on n'en a jamais parlé à l'UTB dans les 20 ans qui viennent de se passer. Jérôme Bosch, idem. Bon, ben donc on bouche le trou. Enfin, c'est un joli bouchage de trou, hein. Quand même, là, on se régale. Et c'est Damien Capelazzi qui a accepté de faire ça. Mais lui, il suffit d'appuyer sur le bouton, on a la conférence. Il a tout dans son catalogue, bien sûr. La peinture. Alors, on a posé le problème à Mathieu Pinette. Comment vous associez la peinture à la période révolutionnaire? C'est pas très difficile. Donc, le premier nom qui vient à l'esprit, David, évidemment. Donc, David, il prend une œuvre célébrissime, La mort de Marat, et là, ça permet de parler d'un révolutionnaire. Voilà, c'est une façon détournée de faire de l'événementiel. Et ensuite, il nous a proposé deux autres tableaux, La liberté ou la mort, et Cornélie, mère des Gracques. Alors celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est pas si connu que celui-là. Hein, c'est assez curieux comme style, si vous voulez. Et là, on est déjà dans une thématique révolutionnaire, symbolique révolutionnaire. Je ne vais pas faire la conférence, hein, je vous rassure tout de suite. Et Cornélie, mère des Gracques, c'est plutôt dans le style également de David. Roger Courreau, peinture contemporaine. Alors, contemporain, on ne sait jamais ce que ça veut dire, parce que tous les 10 ans, c'est toujours contemporain. Alors, au bout de quelques années, ce qui était contemporain ne l'est plus. Ça ne veut pas dire grand-chose. On va dire, le mot moderne est galvaudé aussi, donc on ne sait plus quoi utiliser comme qualificatif. Donc, mouvement Cobra. Bon. Et Anselme Kiefer, c'est un un artiste qui mélange, vous voyez, des installations avec des tableaux allemands, comme le nom l'indique. Et là, évidemment, alors Vermeer, ben pareil, on n'a jamais parlé de Vermeer à l'UTB. Alors j'en suis resté les bras ballants. Hein. Et là, en plus, c'est l'actualité. Vous savez qu'il y a une exposition Vermeer qui est blindée 6 mois avant, donc c'est même pas la peine d'y aller. Puis en plus, comme tous les Vermeer, ça fait cette taille-là. Vous imaginez si le troupeau se précipite devant, vous ne voyez rien. Moi, justement, ce tableau, j'ai vu, il est à Vienne. Je l'ai vu il y a 2 ans. Heureusement, il n'y avait pas d'exposition Vermeer et j'ai pu rester tout seul comme un grand, sans personne qui m'embête pour le regarder de près. Mais il faut être là au bon moment, au bon endroit. Voilà. Celui-là, je vous dis, fait à peu près cette hauteur-là. Hein. Et c'est en largeur. Je l'adore. Voilà. Alors, après, comment illustre-t-on la période révolutionnaire? Alors, Dieu sait s'il y a de la caricature, des choses comme ça. Vous en avez un exemple ici, elle est hyper connue. Mais, notre ami Frédéric Cousin nous a proposé de parler des grands graveurs, et ça aussi c'est extrêmement connu, donc Jacques Callot. C'est la guerre de 30 ans, donc là il y a beaucoup de sang, beaucoup de pendus, et donc c'est très sanguinolent, mais c'est en noir et blanc. Et puis il a quand même mis, mais j'ai pas mis l'image, Goya, les malheurs de la guerre, donc l'invasion de napoléonienne de l'Espagne, et là je veux dire, l'Ukraine c'est de la gnognotte à côté. Voilà. Donc là c'était quand même assez sanglant. Et les caricatures, bien sûr. Alors là on a pu retrouver, si vous voulez, une documentation, puisque je ne sais pas si les plus anciens d'entre vous se souviennent de M. Farinck, donc l'époux qui nous faisait des conférences d'histoire. Il a fait tout un cycle, il y a une dizaine d'années, sur les caricatures, en particulier révolutionnaires. Et il a une iconographie très importante qu'on possède à l'UTB, que j'ai redonnée aux conférenciers pour qu'ils puissent illustrer sa conférence. On fait souvent ça, si vous voulez, quand on a des sources particulières, parce qu'on nous a donné ou prêté des bouquins et tout, et qu'un conférencier dit « Tiens, je vais vous faire ce thème-là », on lui dit « Tiens, on a telle documentation, telle reproduction, si ça vous intéresse, vous pouvez les utiliser comme illustration, c'est un des cas. » Et Claudie Roget va revenir à ses premières amours. Vous savez qu'elle est un spécialiste des affiches en tant qu'objet d'art. Et donc celui-là, il est hyper connu, Charles Loupeau. Et cette publicité emblématique, Saint-Raphaël, bon, c'est l'entre-deux-guerres tout à fait typique. Et là, elle a tout ça dans la tête, ça va très bien se passer. Maintenant, on vient au cinéma. Donc, notre conférencière de cinéma, on lui a dit, révolution plus cinéma, qu'est-ce que vous dites? Alors là, c'est plutôt le trop-plein que la pénurie. Donc, il y a tous les styles, du plus kitsch au plus intellectuel, si vous voulez. Donc, elle va nous faire un petit balayage de la filmographie qui concerne la révolution. Et ensuite, Sylvain Besson, qui est le directeur des collections au musée Niepce, nous a proposé ce monsieur, photographe, moi je ne connaissais pas son nom, ils ont tout son fond au musée Niepce, et en particulier, il a fait toute une série de reportages de rue en Chine dans les années 80, 90, 2000. Et voilà un exemple. Et voilà, on revient sur l'Art Nouveau, l'école de Nancy. Le galet, hein, vous connaissez tous ce type de vase, avec des appliques en verre coloré, comme ça. Pour ceux qui ont fait le voyage, il y a quelques années, on a fait un voyage à Nancy, et il y a un musée, Émile Gallet, qui est très intéressant à voir, où on voit ce type de pièces, si vous voulez. Et là, on aura une conférence sur cette école d'art décoratif. Ah, est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Paul Landowski. Pas vraiment ? Si, oui, non, pas... Mais... Donc c'est un sculpteur, la période c'est toute fin du 19e et les années 50, ouais, une période assez longue, il était. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Des tas de choses. C'est un sculpteur, comment dirais-je, classique par rapport à la période, si vous voulez. Son œuvre la plus célèbre dans le monde entier, ben, c'est le Corcovado. C'est la statue du Christ Rédempteur au-dessus de la baie de Rio. Alors, c'est pas lui qui l'a sculpté sur place, il a fait le modèle, et c'est une statue en béton qui fait 13 mètres de haut. Voilà, c'est... Mais il a fait aussi, entre autres, parce qu'il a travaillé à la commande en permanence, il a terminé à 80 ans, donc il a travaillé tout le temps, tous les styles, des miniatures, des bronzes, des monuments très imposants, etc. etc. Il se trouve, donc, Madame Caillé, je suis allé l'écouter au Creusot, parce qu'elle a fait une conférence sur son grand-père, et il a fait en particulier les bustes de tous les Schneider vivants, c'est-à-dire Eugène II, Charles, et les enfants, la femme et les enfants de Charles. Et il y avait d'ailleurs Dominique Schneider, on a vu son visage poupon quand elle avait 6 ans, elle a un peu changé depuis. Donc elle a 82 ans. Voilà. Voilà, on termine la séquence Histoire de l'art. Maintenant l'histoire. Donc je laisse 30 secondes pour que vous ayez le temps de lire la liste. Voilà. Bon, c'est pas très original, hein, c'est chronologique. Alors quand on dit, je rappelle un petit piqûre d'histoire contemporaine, je rappelle que ce mot contemporain en histoire, c'est une convention, c'est tout ce qui se passe de la Révolution française à aujourd'hui. Alors, contemporain, ça n'a pas le même sens qu'en histoire de l'art. Donc c'est pour ça que vous en avez 18, parce qu'évidemment, on a ciblé cette période de l'histoire. On commence toujours, vous savez, à l'UTB, tout commence toujours à la préhistoire, hein, ou à l'Antiquité. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler d'Harald Floss, qui est un archéologue allemand, mais qui a planté sa tente pratiquement hein, dans la région, là, et qui a fait beaucoup de recherches avec toute une équipe, c'est l'université de Tübingen. Hein, et je lui ai demandé qu'il vienne. Alors, je pense que ce n'est pas lui qui va faire la conférence, mais quelqu'un de son équipe fera un petit résumé de tous ces travaux de recherche. Et en particulier, il a découvert des décorations pariétales, alors qu'on disait toujours qu'en Bourgogne, il y avait Quercy-sur-Cure où il y avait de l'art pariétal. C'est pas vrai, en Saône-et-Loire, il y a au moins deux grottes, en particulier à Ruy, où il y a des images. Alors évidemment, j'ai mis Lascaux parce que j'ai pas les images de la grotte de Ruy. Alors, Vincent Guichard, vous le connaissez tous, il venait très régulièrement il y a quelques années, c'est le directeur du site de Bibracte, depuis maintenant plus de 30 ans, il est toujours là-bas, il y a des menaces toujours en disant il va peut-être quitter, il est tellement bon qu'on lui dit qu'il ne faut pas qu'il s'en aille. En plus, il est sympa, donc il a tout pour lui. Donc, ces dernières années, c'était plutôt nous qui étions allés au musée à Bibracte faire des visites d'expositions spécifiques. Et là, il a accepté de revenir. Et on va essayer de le mettre à 14h30, parce que traditionnellement, il venait à 16h30 parce qu'il est noyé de travail. Donc, pour terminer sa journée, il venait faire son petit show à 16h30. Vous savez qu'à 16h30, malgré l'intérêt extraordinaire des conférences, il y a un peu moins de public qu'à 14h30. Voilà. Et donc, la crise européenne de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, alors ne me faites pas dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est lui qui nous le dira. Il y a une crise manifestement écologique. En ce moment, si vous voulez, en archéologie, on essaye beaucoup de faire des choses comme ça, d'essayer de voir c'est du Brodel, ça, si vous voulez, sur des périodes longues. Il se passe des choses bizarres, il y a des périodes de construction très actives, puis tout d'un coup, plouc, il n'y a plus rien, il y a même des disparitions de construction ou d'activité. Et on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe, et ce qu'essayent de faire les archéologues, c'est de reconstituer un petit peu une histoire longue sur la période romaine, on va dire. Donc, Alena Vasek, vous savez qu'elle vient maintenant régulièrement nous voir, donc qui est guide conférencière. On va la voir d'ailleurs demain, puisqu'on va visiter Alésia et Bussy-Rabutin, et c'est elle qui nous accompagne. C'est une très bonne conférencière, et c'est elle qui nous a proposé ça. Alors, moi, j'ai dit tout de suite oui, bien sûr, pour deux raisons. Parce qu'on peut aller à Cîteaux, vous êtes déjà allé à Cîteaux, et puis à Cîteaux, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est le fromage de Cîteaux. Hein? Alors, je peux vous dire qu'il n'y a que 700 tonnes de produits par an. Et j'en ai goûté quelques fois. Ça vaut le coup. Hein? Donc, on ira voir Cîteaux. Et on achètera du fromage. Bien sûr. Donc vous savez que Saint-Bernard, ben, encore une fois, c'était un dissident. Dans l'histoire des religions, il y a des dissidents qui s'est un peu éloigné des Clunisiens qui s'étaient un peu vautrés dans l'opulence, on va dire. Et donc il y a toujours ces cycles ascétiques chaque fois que ça part un peu dans tous les sens, quoi. Le protestantisme, c'est le même phénomène. Quelques siècles plus tard. Alors là, c'est la question de cours pour les histoires. Louis XVI et les origines de la Révolution. Oh non, et vous n'êtes pas cassé le tronc, hein, à l'UTB. Ben, on n'en a jamais parlé. Et en fait, quand on gratte très fort le sujet, et si on va au-delà des manuels, des lycées, machin, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que l'idée qu'on a ou qu'on croit se souvenir depuis qu'on est sorti du lycée. Donc on va vous sortir quelques facteurs particuliers qui auraient déclenché, au-delà de tout ce qu'on vous dit d'habitude, la crise frumentaire, voilà, la brioche, voilà, bon, etc., etc. Le chancelier Maupeau, les parlements, Louis XVI, et tutti quanti. Ça, c'est de l'histoire, on va dire, classique, mais il y a des choses à côté. Voilà. Et ça, j'ai demandé donc à Robert Caspri, qu'est-ce qui reste de la Révolution dans nos institutions d'aujourd'hui? Et ça, c'est, à mon avis, c'est très intéressant. Parce que on n'en a pas souvent conscience, parce qu'en fait, la Révolution, il faut coller la Révolution plus la période consulaire et napoléonienne. Et vous savez que Napoléon a piqué quelques éléments de la Révolution et qu'il a, il a dit « j'ai fini la Révolution, mais j'ai tout ce que j'ai fait, c'était bien, puisque je m'appelais Napoléon, bien évidemment, c'est le principe du système ». Donc on va essayer de... Évidemment, on cite toujours le Code civil, qui est quand même un peu antérieur à la période consulaire, mais faut dire que c'est quand même Napoléon qui a, on va dire, solidifié la chose. Et j'ai insisté pour mettre ça « et en Europe ». Et on verra que la période napoléonienne a fait que ça a fait tache d'huile. Dans certains, le droit, par exemple, des des pays de la côte dalmate est toujours basé sur la donc de ce qu'on appelle aujourd'hui la Croatie, c'est le droit français au niveau structurel. C'est pas un droit d'origine allemande. Voilà. Et ça, ça date de la période napoléonienne. Alors, Pierre Alliot, je lui ai demandé ça, il n'était pas très chaud pour faire ça, parce que ça, on aborde peu cette chose-là dans les cours d'histoire, autant que je m'en souvienne. Histoire économique de la période révolutionnaire. Et on va découvrir, c'est pas un scoop, les états généraux ont été faits parce qu'il n'y avait plus de sous dans les caisses, donc il fallait demander à ce qu'on... n'est plus d'impôts. Quoi. En fait, ça servait à ça. Mais derrière tout ça, c'est vachement compliqué. Il s'est quand même passé des choses pendant la Révolution. Et les déficits, tiens, c'est bizarre, c'est un mot que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Ma pauvre dame, c'était quand même quelque chose sous la Révolution. Et si nos petits Bonaparte n'avaient pas fait feu de tout bois en Italie et pillé sans vergogne toute la vallée du Pô, avec les sous qui allaient avec, eh bien la petite révolution, elle aurait été vraiment en grande difficulté. En fait, on dit M. Poutine aujourd'hui, mais M. Bonaparte de l'époque, c'était le Poutine de l'époque. Voilà. Donc, la Banque de France, toutes ces choses-là, c'est des choses un petit peu intéressantes. Les assignats. Quand vous lisez les lettres de Denon, de la période 1796-1800, enfin avant qu'il aille en ait, la moitié des lettres ne parlent que d'une seule chose, des assignats. Les assignats qui plongent comme ça, et moi j'ai plus de sous, comment je vais faire? Voilà. Donc on a beau aimer l'art et l'Égypte et les choses comme ça, quand on est noble ou qu'on est rentier, la première chose qui vous intéresse, c'est quel est l'état de mes revenus et de ma rente. Voilà. Alors, la rente était en difficulté. On va parler de tout ça. Alors, Bruno Benoît, donc, qu'est-ce qu'on va lui confier sur la Révolution? Alors, après discussion, la constitution civile du clergé et le concordat. Donc là, on voit bien la bascule. Et ça, c'est mal connu, à mon avis. Ça mérite d'être révisé, on va dire. Hein. Et alors que finalement, Napoléon n'était pas spécifiquement religieux, autant qu'on le sache. Par contre, il voulait la religion pour, comme ciment social. C'est pour ça qu'il a fait le concordat. Et puis, les résistances à la Révolution, évidemment, l'historiographie classique, la Révolution, c'est bien, globalement, et tous ceux qui étaient contre la Révolution, c'était des pas bons, pas gentils, et tout. Donc les chouans, voilà, j'ai pris une image. Donc, essayer de lister toutes les catégories sociales et toutes les zones qui ont tenté de lutter contre la Révolution. Et je lui fais confiance pour nous faire un festival. Parce que, voilà. Alors, c'est pas la Révolution, ça. Histoire de la gendarmerie. Pourquoi pas? Si je vous fais une interro écrite tout de suite, vous avez, quand a-t-on commencé à avoir des gendarmes? Vous sortez le joker. Hein. Eh bien, tout simplement, j'ai pris contact avec ce monsieur-là qui est général. On n'a que des amiraux et des généraux là, dans nos militaires conférenciers. Et donc, qui est directeur de l'école de gendarmerie de Melun. Et il va nous raconter toute cette histoire du gendarme. Alors, vous voyez, ça c'est la période début du 19e, et puis le gendarme de Saint-Tropez, voilà. Et on ira voir l'école de gendarmerie de Melun. pour ceux qui veulent, on ira voir aussi d'autres choses. Toutes ces écoles militaires, à part le fait qu'on sache qu'elles existent, on se demande bien qu'est-ce qui peut s'y passer. Et donc, il se passe quand même des choses. Et donc, je pense que ce sera intéressant de le visiter. Alors, voilà encore un thème transversal intéressant sur la Révolution. Notre ami Jean-Paul Dailloux, il n'est pas là, donc sa modestie n'en souffrira pas. Jean-Paul Dailloux, il a fait sa carrière dans le notariat, puisque son père, vous le savez, était notaire à Châlons. Il a fait une carrière dans le notariat à Paris, mais il a toujours aimé l'histoire, en particulier, c'est un érudit sur la période révolutionnaire. Et à 70 ans, il a passé sa thèse de doctorat de droit à la fac de Lyon. C'est Madame Fortuné, vous vous souvenez, Madame Fortuné, qui était doyenne de la fac de droit de Dijon, qui nous a fait des conférences il y a une quinzaine d'années ici. Peut-être certains s'en souviennent. Et qui a insisté en disant si vous êtes. Parce que la thèse, elle dormait dans les placards depuis la période estudiantine, et puis elle n'avait jamais été finie. Donc faites-la, finissez-la. Et il a passé sa thèse, j'y étais, et bien sûr, il a eu son doctorat, avec félicitations et tout et tout. Même plus, le président du jury, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des thèses de doctorat, c'est du. C'est du. Sadisme rhétorique, j'appelle ça comme ça. Les jurys sont absolument exécrables en général et insultent, humilient l'impétrant ou l'impétrante. Et puis si elle a réussi à résister sans exploser jusqu'au bout, on lui donne son truc avec mention très honorable. Ça, c'est la règle du jeu. Eh bien, le président du jury lui a dit, Monsieur Dailloux, c'était excellent, c'était tout bien, mais votre thèse, elle fait 1200 pages. Je l'ai lu, j'ai feuilleté un petit peu avant que vous la présentiez, puis j'ai trouvé que c'était tellement bien écrit que je l'ai toute lue. Et je vous félicite pour la qualité de votre rédaction. Vous avez un style extraordinaire, très pédagogique. Alors bon, si vous voyez les thèses que je suis obligé de faire passer maintenant, vous n'en reviendriez pas. C'est pourri de faute d'orthographe et de faute de français. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que la politique familiale ? Ben, quelle était l'idéologie de la famille du temps, on va dire, de la Deuxième République ? Et vous allez voir que c'est... Bien sûr, on a réintroduit le divorce, on ne se souvient que de ça. Mais vis-à-vis de la natalité, vis-à-vis des règles d'héritage, vous verrez, ce sera très intéressant. Donc, je vous la conseille très vivement. Et là, je suis obligé de faire le boulot. Hein. Vous savez qu'on a écrit un bouquin à plusieurs mains sur Lazare Carnot, dans le cadre du patrimoine écrit de Bourgogne. Et puis, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que le 15 septembre 2023, à Nolay, ville natale de Lazare Carnot, il y a un grand raout parce que c'est le 200e anniversaire de sa mort. Et on m'a demandé de faire l'inauguration de ces festivités. Alors j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. J'étais persuadé que ce truc-là, on l'avait déjà tout préparé au moment du bouquin. Puis je cherche dans mes archives. Ah oui, on a dit, il y a un petit PowerPoint qui fait 5 planches, qui dit on a fait un bon bouquin. Et puis basta. J'avais déjà accepté. Donc il a fallu que je révise. Alors, j'étais pas handicapé puisque j'avais le bouquin. Donc j'ai préparé une belle conférence sur Lazare Carnot, la vie et l'œuvre de ce personnage. Et Carnot, il est au centre de l'événementiel, vous savez, c'est l'organisateur de la victoire, donc comité de salut public. Et il a échappé au rasoir républicain, c'est-à-dire c'était lui ou Robespierre, ça a été Robespierre, donc lui, il a survécu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant la Révolution ? L'importance, l'explosion de la presse. Hein ? Ça aussi, c'est une question de cours, mais enfin, donc Michel Bonnet, que vous connaissez, est très documenté sur cet aspect-là, et l'ami du peuple, c'était des gens, enfin un journal qui était très saignant au sens propre et au sens figuré. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Ahmed Youssef, comme son nom l'indique, qui est franco-égyptien, qui est plutôt littéraire comme historien littéraire, très sympathique, et qui a fait en particulier à l'occasion d'une conférence qu'il a faite là dans la région sur le capitaine Bouchard. Vous savez qui c'est, le capitaine Bouchard ? Capitaine Bouchard, c'est celui qui a trouvé la pierre de Rosette. Alors que ce qu'on ne dit pas, le capitaine Bouchard, c'était aussi un polytechnicien. Voilà. Et alors il a dit, mon éditeur m'a dit, il faut que j'arrête les conférences sur le capitaine Bouchard parce qu'il y a un nouveau livre qui va sortir, c'est Napoléon vu par les Arabes. Donc ben, je lui ai dit, vous venez nous parler de votre nouveau bouquin. Ok. Donc il va nous parler. Alors j'ai mis exprès ce tableau-là, où une des bévues classiques qu'a fait Napoléon, Bonaparte, quand il est en Égypte, il est rentré dans la mosquée à cheval. Non, quand même, non, il y a des choses qui ne se font pas. Bien qu'il ait eu l'intention de se convertir à l'islam, pour des raisons politiques. Ben voilà une autre vedette. Alors, j'ai fait pareil, la revue des archives, quand est-ce qu'on a parlé de l'histoire de Nicéphore Niépce à l'UTB ? Ah ben oui. Alors là, on est vachement équipé parce que Manuel Bonnet, vous le savez, puisqu'avec lui, on a fait le livre sur le Pierre Lefort. Donc, c'est un descendant à la septième génération depuis Nicéphore. Il est à Paris. Hein. Et pourquoi, en 2024, il va venir ? Ben, tout simplement parce qu'en 2024, contrairement à ce qui est dit sur le monument le long de la Nationale et contrairement à ce qui est dit dans toutes les biographies, l'invention de la photographie, ce n'est pas 2022, ce n'est pas 2026, c'est 2024. Et il a les preuves documentaires qui permettent de démontrer. Voilà. Monsieur Clemenceau, notre historien des religions, on va dire, il insistait pour nous proposer ce sujet. Vous savez ce que c'est que le catholicisme social ? C'est l'encyclique Rerum Novarum, la fin du 19e, qui disait, avec la révolution industrielle, il faut quand même un petit peu s'occuper du sort des ouvriers. Je résume. Et accessoirement, c'était sa thèse de maîtrise. C'est pour ça qu'il la ressort du frigo. Donc il a insisté, il a dit, vous avez le choix entre ça et ça. Donc ben, on prend. Voilà. L'Ukraine, bon. Donc on redemande à M. Philippe Comte. Alors, je pense qu'il va nous refaire un petit peu ce qu'il avait fait tout à fait au début de sa conférence de l'année dernière. De l'année dernière. C'est histoire croisée de l'Ukraine et de la Russie. Et là, donc, Geneviève Guérin, ici présente dans le public, va nous faire la période chinoise, donc de Sun Yat-sen à. On va jusqu'en 49, hein, oui. Même après, non ? Même après, donc le XXe siècle, on va dire. Voilà. Parce que vous vous souvenez de Lionel Véran qui nous a fait beaucoup de conférences sur l'histoire de la Chine. Cette séquence-là, on ne l'a pas eue. Ben, on révise quand même. Donc on est allé, on a fait les boxers, on a fait les guerres de l'opium. Donc toute la partie précédente, le 19e, il est bien documenté dans les archives de l'UTB. Et puis tout avant, les Ming, les Qing, les Song, voilà, etc. etc. Donc ben là, on ne l'a pas fait. Ah ben, là, c'est un doublon. Là, j'ai une petite erreur. Mais vous voyez, il est deux fois. Alors, quand on avec notre ami Kersaudi, qu'est-ce que vous nous proposez? Il me propose ça. Je lui dis, mais c'est pas du tout dans dans ce que vous avez l'habitude de proposer. Ben, j'ai fait le bouquin, donc je travaille dessus, donc je vous propose ça. Alors, je lui dis, mais Che Guevara, c'est un psychopathe dérangé. Je confirme. D'ailleurs, c'est le thème de mon bouquin. Et on va découvrir. Alors, on va se poser la question, pourquoi c'est devenu une idole alors que vraiment, il n'y avait vraiment pas de quoi. Staline à côté, c'est un amateur. Donc, on aura un show, on va le dire, sur Che Guevara. Claude Lyonnais va nous faire l'histoire des chemins de fer en France, hein. J'en ai un petit peu parlé quand je vous ai fait une conférence sur les Saint-Simoniens, puisque il y a eu beaucoup de connexions, les Pereire, le père Enfantin et compagnie, là. Donc, les Rothschild, etc. Donc, plutôt la partie capitalistique qui était en arrière-plan des chemins de fer. Et lui, il va vous parler des locaux et des voies de chemin de fer. Et évidemment, Monique Roux. Alors, on lui demande toujours, parce qu'on la respecte beaucoup, et elle est là, elle m'écoute, hein, en disant, mais qu'est-ce que vous nous proposez cette année? Alors, on a toujours. On dit, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Et là, elle nous dit, l'histoire des Jeux Olympiques. Mais c'est bien sûr, 2024, c'est l'histoire des Jeux Olympiques. Mais ben, ah ben là, tout de suite, ça fait mouche. Donc, alors, bon, ben. Allez, vous savez qui c'est, ce beau moustachu? C'est Pierre de Coubertin. Hein? Vous ne l'avez pas en photo dans votre chambre? La conférence traditionnelle sur l'histoire de donc Françoise Rasselhoff et puis Madame Morin-Dufoy sur l'histoire de l'hôpital. Et là, le service patrimoine nous a proposé une conférence sur des synthèses des recherches archéologiques qui ont été faites à l'occasion de la rénovation de l'évêché. Ah, la Bible révélée, c'est-à-dire l'historicité de la Bible. Alors vous savez que ça fait beaucoup de mousse depuis quelques décennies, ce sujet-là. Alors j'ai mis exprès pour faire un peu de provoque ces deux-là. Donc s'ils sont deux, il va parler de tout, hein, mais qui sont des archéologues israéliens et qui ont dit en substance. La Bible, c'est juste historiquement à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Avant, il n'y a pas de preuve archéologique de ce qui est raconté dans la Bible. Bon, ben, on verra. Puisque on peut dire beaucoup de choses sur l'État d'Israël et beaucoup de choses désagréables, surtout en ce moment. Mais le fait qu'il y ait eu un État d'Israël, c'est qu'il y a eu de l'archéologie sur la surface d'Israël, alors qu'avant il n'y avait pas d'archéologie. C'est un concept européen, ça, l'archéologie. Et donc Geneviève Guérin, donc, qui était dans la Chine, comme on lui avait proposé trois conférences, qu'est-ce qu'on là pareil, on fait la liste de tout ce qu'elle nous a fait, et elle nous sort la longue histoire du Sahara. Parce qu'effectivement, c'est tout à fait méconnu. Là aussi, c'est de l'archéologie. Donc, plusieurs millénaires avant l'ère actuelle, eh bien, il y avait des civilisations dans le Hoggar, dans les choses comme ça. Et on a des preuves archéologiques avec des restes d'inscriptions pariétales. Notre amie Géraldine Guérin, l'autre Guérin, eh bien, on l'a rencontrée. On est allé à Lorient de voir le musée des Compagnies des Indes, ben, je vous dis, c'est une étoile de plus que l'image que je m'en faisais. Elle était toujours très bien, mais le musée vaut le déplacement, je confirme. Hein. Parce que quand on, c'était un peu le fantasme en disant, comme elle fait des très bons, très bonnes conférences autour de la Compagnie des Indes, il y a un musée de la Compagnie des Indes, on va aller à l'autre bout de la France pour voir un musée, on se dit toujours, est-ce qu'on ne veut pas être déçu du voyage ? Ben, je confirme qu'on n'a pas été déçu du voyage. Le musée est vraiment très bien. Si vous passez dans la région, à Lorient, allez voir ça. Lorient, ça veut dire qu'on va en Orient, hein, vous avez compris. C'est pour ça que c'était la Compagnie des Indes. Et donc, parmi les produits exotiques, eh bien, il y a le thé, et donc elle nous parlera de l'histoire du thé. Voilà. Et puis, elle a un autre sujet qu'elle nous a proposé, enfin, le cheval, le rôle civilisateur du cheval, je ne sais pas si on peut dire comme ça, le cheval, c'était un outil de civilisation, entre guillemets. Et elle fera cette conférence physiquement, ici, vous allez la voir, pouvoir la toucher. Elle existe. Hein ? Parce qu'elle a trouvé un autre endroit, je crois que c'est à Bourg, pour faire cette même conférence, donc on peut mutualiser les frais de déplacement, si vous voulez. Puis elle a envie de venir nous voir. Voilà. Donc je vous confirme qu'elle est très sympathique. On l'a vue en vrai. Alors, dans le thé, de temps en temps, on met du sucre. Alors, Madame Jurzac va nous parler de l'histoire du sucre, qui est aussi, d'une certaine manière, un produit exotique. Alors, les migrations. Alors, sujet bateau aussi, et qui a eu des connotations très désagréables maintenant. Alors, en fait, tout simplement parce que Madame Michelin, qui fait partie du groupe Éthique et Société, a fait un exposé là-dessus. Et de la même façon que l'année dernière, on a demandé, par exemple, à Monsieur Babou, qui avait fait un exposé dans le groupe Économie, qui m'a paru très bien, il avait accepté de le refaire en séance plénière. Alors, au début, il a dit « Oh là là, non, je n'ai pas envie ». Et puis finalement, il l'a très bien fait et c'était très bien. Donc, je confirme que Mme Michelin, elle a fait une très bonne conférence, donc elle va la refaire en séance plénière sur les migrations. Alors, les migrations, ça va être depuis, depuis qu'on peut se déplacer relativement facilement, depuis le 15e siècle. Les prix Nobel. Donc, Michel Bonnet va nous faire l'histoire des prix Nobel. Alors, celui-là, c'est Sully Prudhomme, le premier. Alors, on était bien embêtés parce que comme c'était quand même les Français à l'époque du temps de Nobel, juste après la mort de Nobel, il fallait qu'il soit dans les premiers prix Nobel. Alors, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent à l'époque ? Sully Prudhomme. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Sully Prudhomme. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais enfin, il a eu le premier prix Nobel français et le premier prix Nobel de littérature. Et Annie Ernaux, bon, c'est la dernière de la liste, vous le savez. La Révolution, évidemment, une incontournable, Olympe de Gouges. Droit des femmes, déclaration du droit des femmes. Et la Révolution comme sujet littéraire. C'est-à-dire, effectivement, ça a tellement fantasmé autour de la Révolution. Et en particulier, on a un de nos amis, c'est toujours le même, Jean-Paul Dayou, celui qui fait la thèse sur l'histoire de la famille. Eh bien, il a fait un roman historique que nous avons en stock dans nos étagères, Le fantôme de Robespierre. C'est une uchronie. C'est-à-dire, on dit, Robespierre, c'est pas lui qu'on a guillotiné. Il y a eu un tour de passe-passe, et après, il s'est caché dans un petit coin. Et donc, c'est une œuvre de fiction. Mais donc, comme il a une culture révolutionnaire, enfin, sur la période révolutionnaire tout à fait significative, Madame Caetano, qui est une bonne conférencière de littérature, a accepté de faire ce sujet, pas le fantôme de Robespierre, la littérature autour du concept révolutionnaire français. Alors, une couche sur Proust, On a déjà eu une conférence introductive l'année dernière, donc c'est la deuxième partie. Histoire de l'érotisme, j'en ai déjà parlé donc en quatre séances, donc avec un découpage chronologique. Et donc Catherine Weissmann va nous parler de poètes français dont j'avais jamais entendu parler, le couple Cadou. Et qui connaît les Cadou? Voilà, oui, bien sûr. Hein. Donc c'est l'intérêt un petit peu des conférences, de pouvoir sortir un peu de l'anonymat des personnes qui sont méconnues. Alors par contre, on revient sur les vedettes, histoire du théâtre. Marivaux, on n'a jamais parlé de Marivaux à l'UTB. C'est quand même terrible. Hein. Et Peter Brook non plus. Donc, mais ça, c'est des propositions de la conférencière, bien sûr. Alors là, c'est moi qui insistais. La période révolutionnaire, les deux œuvres emblématiques pré-révolutionnaires, on va dire, c'est Le mariage de Figaro et Le barbier de Séville, qui ont après été déclinés sur tous les médias, donc les opéras, les pièces de théâtre et tutti quanti. Et de montrer en quoi elles sont révolutionnaires. Il y a de très beaux films, je pense qu'elle le proposera dans le Madame Assadas, là, dans la filmographie, le très beau film où c'est comment il s'appelle celui qui joue le rôle de Beaumarchais. Lucchini, voilà, Lucchini. Fabrice Lucchini. Vous avez vu déjà ce film-là qui montre, quand il présente sa pièce aux comédiens français. Je rappelle qu'à l'époque, pour qu'on puisse jouer une pièce à la Comédie française, il fallait qu'il y ait un passage comme une thèse. Hein. Donc l'auteur lisait sa pièce devant les comédiens. Les comédiens disaient « Non, non, ça c'est nul, il faut supprimer cet acte-là, cette scène-là, il faut mettre ça dans tel ordre. » voilà. Et les gens obéissaient. Parce que les chefs, c'était... Et lui ne touchait rien, puisque c'était les comédiens qui faisaient la recette et qui faisaient le bénéfice. Donc c'est comme ça qu'il a inventé le droit d'auteur. L'inventeur du droit d'auteur, c'est M. Beaumarchais, parce qu'il trouvait que c'était pas normal que les comédiens se mettent toute la recette dans le bénéfice dans la poche. Alors, voilà encore un couple célèbre. Alors ça, c'est plus la Révolution, hein, c'est période romantique. Delacroix et George Sand. Et en histoire, notre ami Lécuyer nous a proposé au moins le premier sujet qui nous a paru intéressant. Et surtout dans la période actuelle. Guerre et environnement. Parce qu'à force de mettre des bombes, des machins de partout et des produits, là, il en reste quelque chose, on en sait quelque chose. Et donc, ça nous a paru intéressant. Et puis, les femmes et la guerre, bon, alors ça c'est aussi un sujet un peu tarte à la crème, mais j'ai mis évidemment la photo où on voit les femmes dans les usines d'armement. Et puis là, on ne peut pas échapper à ce chat GPT ou GPT, si vous prononcez l'anglais. Donc le professeur Nicole, qui était déjà venu nous faire des conférences il y a 2 ou 3 ans, qui est très bon, qui est un très bon conférencier, c'est pas facile à expliquer tout ça, et il va nous... il vient, c'est au mois de décembre, nous dire ben, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et en particulier, il va prolonger au groupe économie qui sera à 17h pour avoir un échange avec un petit groupe de privilégiés dont je fais partie sur le sujet de sa conférence. Alors on finit par arriver au moustachu incontournable, Nietzsche, Il y avait une dame qui, depuis des années, nous demandait « Nietzsche, Nietzsche, je voudrais qu'on parle de Nietzsche. » Alors ça y est, on parle de Nietzsche, mais je pensais qu'elle n'est pas là, dans, elle n'est pas dans le public. Donc voilà, c'est un philosophe atypique allemand de la fin du 19e. Et là, j'ai trouvé ça, Madame Simonin, notre philosophe comportemental, on va dire ça comme ça, et donc une approche philosophique des révolutions sociétales que nous vivons. Donc je pense que l'image que vous voyez parle d'elle-même, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc c'est madame, monsieur et la grande fille qui regardent chacun leurs écrans dans un petit coin, mais qui ne se regardent pas les uns les autres. Voilà. Économie et droit. Donc Madame Tourard, qui est la spécialiste du droit international, en particulier européen, quelle est comparer les législations dans les différents pays sur le droit de manifester. Sujet très technique. Et puis, j'ai voulu faire aussi quelques sujets d'actualité. Comment marchent les supermarchés? Comment marche la chaîne logistique du producteur au rayon des supermarchés? On devine bien, plus ou moins, que c'est compliqué, mais c'est M. Mouni qui est déjà venu, qui nous faisait pas mal de conférences de sociologie. M. Mouni, il a été directeur de l'IUT. Et sa spécialité comme enseignant, c'est la logistique. Donc la logistique, c'est comment on organise les flux de marchandises du producteur au consommateur. Donc c'est compliqué, mais surtout, une fois qu'on aura écouté avec intérêt sa conférence, on ira visiter une plateforme logistique pour voir comment ça se passe. Ce qu'on ne voit jamais, à part de voir le camion qui livre dans votre petit supermarché de quartier. Et puis derrière tout ça, il y a une autre dimension, on en parle de temps en temps à la télé, ce sont les négociations commerciales. Alors, ça ne se passe pas aussi souvent sympathiquement que c'est montré sur la photo, là. Hein ? Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande et le rapport de force entre les producteurs et les distributeurs, vous savez très bien. Et donc, là, on a trouvé, c'est un ami de M. Mouni, là, donc un prof de Dijon, là, qui était spécialiste de ces questions. Donc, on va parler de l'Ukraine maintenant sur le plan militaire, parce que ça, c'est inusable. Malheureusement, je crains que dans un an, la situation, ce soit toujours la guerre et que ça dure des années et des années. Donc, voilà. Donc, l'amiral Koldefi est venu nous en parler il y a quelques semaines. Et puis, oui, c'est ça. Et puis, deuxième cycle proposé par Monique Roux, l'Amazonie. Alors, du mythe au conquistador, parce qu'on a changé plusieurs fois de titre, mais Madame Roux aime bien changer les titres, parce que, en fonction de l'avancement de ses réflexions, évidemment, ça permet de faire un découpage particulier. C'est définitif, voilà. Ça veut dire que c'est tout prêt. Si je vous la demande demain, vous pouvez la faire. Voilà. Donc, celui-là, on l'a déjà vu à la télé, hein. Mais celui-là, je ne suis pas persuadé que vous sachiez qui c'est. C'est Simon Bolivar. Hein. Simon Bolivar. Et Simon Bolivar, vous pourriez faire, d'ailleurs, je suis sûr que ça va faire la moitié de votre conférence, c'est un... Non, pas tant que ça. Mais enfin, c'est quand même un personnage, Simon Bolivar. Particulier. Bon. Mais vous nous direz, puis on discutera. Donc, le fantasme de l'Amérique du Sud, on va dire ça comme ça. Et l'Amazonie aujourd'hui, un enjeu géopolitique. Bon, c'est plutôt la partie, on connaît tout ça, la partie environnementale, les ressources naturelles, la biodiversité, les feux de forêt, gna 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 gna. Mais ce n'est pas inutile de le remettre en perspective, si vous voulez. Alors, j'ai demandé, à mon avis, ce ne sera pas M. Koldafi, mais il va nous donner quelqu'un qui va nous parler de ça, parce que c'est très présent dans les médias. Donc, c'est les nouveaux mercenaires, donc le groupe Wagner en Afrique. Vous savez que c'est le groupe Wagner qui a foutu dehors les Français dans l'Afrique de l'Ouest. Hein. Mais là, les financements, il n'y a pas que la partie guerrière, il y a la pompe à finances qui alimente bien les bonnes poches. Vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, le dernier module, c'est sciences et techniques. Je fais une petite pause pour que vous ayez le temps de lire la liste. Voilà. Alors, on insiste, parce qu'on a du mal à convaincre les conférenciers à venir nous parler de ça, c'est-à-dire les gens qui sont compétents. Quand on fait des recherches sur l'ADN fossile, c'est-à-dire de trouver dans des vieux ossements de jusqu'à plus d'un million d'années, des restes d'ADN, puis de remonter à l'ADN complet. Donc les technologies actuelles, je rappelle que le prix Nobel de médecine de la fin 2022, Svante Paabo, qui est un Finlandais, a été obtenu sur ce thème-là, les ADN fossiles. Et donc ça permet de... Alors, Ludovic Orlando, il est super sympa, il a une petite queue de cheval, mais il est tout le temps en balade, et on le voit à la télé, hein, apparemment c'est un très bon conférencier, alors pour l'avoir, pas facile, parce qu'ils sont toujours en balade. On chasse le mammouth quand on chasse l'ADN, on ne chasse pas les conférences à l'UTB de Chalon. Voilà. Donc entre le mammouth et l'UTB de Chalon, on a vite choisi. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que ça détruit quelques mythes de l'archéologie. Si vous voulez, déjà, on voit que les mouvements de population humaine sont d'une complexité 10 fois supérieure à ce qu'on imaginait il y a seulement encore 20 ou 30 ans. Donc les Cro-Magnons, les Néandertaliens, les Denisova, ça part dans tous les sens et dans tous les sens. Et on découvre à nouveau qu'il y a des branches de l'arbre qu'on ne connaissait pas l'existence. On sait qu'elles sont différentes parce qu'on sait analyser leur ADN, ce qu'on ne savait pas faire il y a seulement 20 ans. Alors j'ai trouvé une belle photo de Cro-Magnon là. L'an dernier, vous savez, Thierry Malvézy, qui est maintenant au musée de Neuchâtel, qui est un copain, et donc je lui ai demandé de revenir pour la deuxième, un peu un balayage global sur les connaissances du moment sur l'évolution humaine. Mais là, on ne monte pas un million d'années, évidemment, puisque l'homme n'existait pas, mais au niveau des 100 000 dernières années. Voilà. Astronomie. Donc, M. Causeret, qui vient là depuis 2 ans, donc je rappelle M. Bonin, qui était notre conférencier pendant 15 ans d'astronomie, ben, il a émigré en Normandie, donc il a dit j'arrête. Il a introduit M. Causeret, qui est un enseignant plutôt mathématique, hein. Et on le voit bien dans la sensibilité de ces conférences. Et donc là, j'ai remis les vieux atlas. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu, cet atlas-là. Il est à la bibliothèque municipale de Chalon. C'est l'atlas de Cellarius, toute peinte à la main, exemplaire par exemplaire. Il n'y avait pas de machine pour faire la couleur pendant la Renaissance. Et puis là, les systèmes, donc les lois de Kepler, des mouvements des planètes. Et puis Matthias Schulz, qui nous avait quitté depuis 3 ans, là, qui est prof de SVT à Hilaire de Chardonnay. C'est un jeune et beau et dynamique professeur. Mais comme l'éducation nationale change les programmes, ça lui donne du boulot. Donc maintenant qu'il a assimilé les changements de programme de 2019, donc il a dit je veux bien refaire des... Donc il se rattrape, il va en faire deux cette année. Une sur l'exploration scientifique de Mars, puisque une chose qu'on sait peu, c'est que le programme, vous savez, on envoyait des petits zinzins comme ça sur la planète, mais il y a tout un programme sur une dizaine d'années, parce qu'on fait des carottes, puis les carottes, on les laisse dans un endroit, puis après, il y a une autre fusée qui va venir, puis un autre appareil qui viendra prendre la carotte, et puis essayer de la ramener sur la Terre. Donc c'est d'une complexité pas possible. Donc il va nous parler de tout ça. Et puis, changement climatique oblige. Donc, il vient de nous faire une conférence en disant ben, le changement climatique affecte la vigne. Bon, c'est pas un scoop. Donc, il nous a dit ça d'une façon très, très détaillée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses externes, mais on peut faire des choses internes, c'est-à-dire mettre au point, par sélection ou par manipulation génétique, des nouveaux plants qui sont moins sensibles à la sécheresse et aux conditions nouvelles du climat. Alors, notre ami Lecointre, qui nous a fait déjà deux conférences passionnantes, c'est un monsieur du Muséum d'Histoire Naturelle, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous est venu l'écouter, il est très bon, hein, très pédagogue. Donc il a dit, il faut que j'arrête un peu sur l'évolution, parce que je repasse toujours un peu le même disque. Et là, il a proposé un sujet qui est intéressant, qui est de dire, qu'est-ce qui fait qu'on a une empathie particulière pour telle catégorie d'animaux ? Et donc, je vous donne le résultat de l'analyse, mais il va la documenter, c'est que plus les animaux nous ressemblent physiquement, plus on a de l'empathie pour eux. C'est pas un scoop, hein. Mais l'empathie pour les crevettes, elle est moins élevée que pour les petits chiots, hein, c'est clair. Mais donc, il va parler des biais cognitifs vis-à-vis de la perception psychologique des animaux. Donc encore une couche sur le climat, donc les paléoclimats, donc c'est le socle finalement des études qui permettent de dire qu'aujourd'hui il y a un problème, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé il y a un certain nombre d'années. Alors là, l'image que j'ai mise ici, si vous voulez, c'est la période récente. Vous voyez, 1860, 2000, et on dit, ben voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans la période pré-industrielle, et voilà ce qui se passe dans la période actuelle. Hein. Donc, par quels moyens on est capable de tracer ces types de courbes? C'est ça. C'est pas un exposé du GIEC. Hein. C'est juste une tranche en disant, voilà, je sais tracer cette courbe parce que je fais des carottages dans la calotte glaciaire, parce que je fais des prélèvements dans les arbres, parce que ceci, parce que cela. Voilà. Et Jean-Marie Vigoureux, à ça, ma demande, il a fait un livre, qui est, comme tous ses livres, extraordinaire, qui s'appelle O. E-A-U. Il n'y a même pas d'article. O. L'eau. Et c'est un livre de physique. Il y a aucun dessin, si, il y a des dessins, mais il n'y a aucune formule. Et la molécule d'eau, d'ailleurs la molécule d'eau, vous savez, c'est un oxygène puis deux hydrogènes, avec un angle de 104 degrés et des poussières, il n'y a pas un gars qui a pris un rapporteur pour regarder la molécule d'eau puis mesurer l'angle et le machin. Cette structure de la molécule d'eau, on la connaît depuis quand ? 1930 seulement. 1930. La mécanique quantique. Et ça, le machin, on ne l'a jamais vu, même avec les instruments les plus puissants qui existent. Mais on sait pourtant que c'est fait comme ça. Donc, voilà. Et puis, cette molécule d'eau, ben, elle a des propriétés qu'aucune autre molécule de la création, j'allais dire divine, de la création, n'a. Elle n'est pas comme les autres. Par exemple, vous savez tous, il y a des phénomènes que la glace, elle gonfle quand elle se refroidit. Il n'y a aucun corps qui fait ça autrement que l'eau. Pourquoi c'est comme ça? Comprendre ça, on a su le faire qu'en 1930. C'est constaté depuis la nuit des temps, quand vous mettez une bouteille de flotte et quand il gèle, elle explose. Mais voilà. Et ça permet de faire aussi, c'est les ponts hydrogène, les liaisons hydrogène, mais je suis en train de vous faire la conférence, qui explique pourquoi les cristaux de neige ont une forme d'étoile. C'est bizarre, parce que la molécule, elle a la forme d'un triangle. Comment ça se fait que c'est pour faire joli, voilà. Et donc, c'est compliqué. Il y a des tas de propriétés tout à fait particulières. La capillarité, qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Des tas de choses. Médecine. On va vous parler d'un truc dont on ne parle pas souvent, les bactériophages. Alors, à la fin de la guerre 40, les Américains, c'était le début des antibiotiques, ont découvert qu'il y avait des virus spécifiques qui tuaient les bactéries. Ça s'appelle des bactériophages. Dans le jargon de la microbiologie, ça s'appelle des phages, parce que c'est des Anglais qui ont trouvé ça, donc ils sont fatigués, ils n'aiment pas prononcer des noms longs, donc c'est des phages. Quand vous entendez, oui, les phages, voilà. Et ces bactériophages, on n'en parle pas beaucoup, tout simplement parce que à chaque type de bactérie, il faut un virus particulier pour tuer cette bactérie-là. Donc c'est compliqué. Et donc, par contre, on a un peu abandonné les études sur les phages dans les années 50 dans le monde occidental. Par contre, dans le monde soviétique, qui était quand même isolé de la technologie des antibiotiques, parce que c'est le succès des antibiotiques qui a fait qu'on a un petit peu arrêté sur les phages, on soigne les gens avec des bactériophages. Et pourquoi ça revient à la mode, les bactériophages? Tout simplement, on a eu une conférence là-dessus, c'est qu'il y a une résistance aux antibiotiques. Et donc on dit, maintenant notre arme elle est un peu émoussée et on ne peut pas retrouver dans nos archives d'autres armes pour lutter contre les maladies infectieuses. Donc voilà, et en plus c'est rigolo parce que la forme du virus, voilà, c'est ça. Ça ressemble à une espèce d'araignée, là. Et là-dedans, il y a une petite... Et là-dedans, qu'est-ce que c'est ? De l'ARN messager, ça vous dit quelque chose ? Et donc, toutes les études sur les ARN messagers, elles sortent pas de... Elles sortent de là, de ça. De quelques couillons. Et les gens qui ont trouvé la structure de l'ADN, je vous ai fait une magnifique conférence extraordinaire là-dessus, sur l'histoire de l'ADN. Et c'était un gars qui travaillait sur les phages. Voilà. Madame Husson-Robert va nous parler de la médecine, on va dire asiatique, donc qui est philosophiquement qui est complètement différente de la médecine analytique et allopathique du monde occidental. Et bon, voilà, c'est l'image d'acupuncture. Et alors là, je suis très satisfait de ça. On va essayer de vous expliquer comment on fait pour qu'on vous fasse une prise de sang le matin à 7h du matin et que sur votre mail à 3h de l'après-midi, vous ayez le résultat. C'est pas grâce à l'informatique, un petit peu quand même parce qu'on utilise le mail, mais il se passe des choses entre le moment où on a fait votre prise de sang et ça, on ne sait pas, tout le monde s'en fiche. Et ça se passe entre autres au labo Boussicaut. Donc on a pris contact avec le labo Biolab de Boussicaut. Est-ce que vous nous faites une conférence sur les technologies d'analyse médicale ? Oui, monsieur, pas de problème. Donc ça va se mettre en place. Et ensuite, on ira visiter le labo de Boussicaut pour voir ces petites bêtes à cornes qui sont des machines compliquées où on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tout est automatisé. Madame Borchneck. Alors, on peut pas... Et en plus, vous savez que j'adore les fusées. Donc là, on en met un petit coup tous les ans. Et Monsieur Arnaud Pau, c'est un gars brillant, un militaire, polytechnicien, les deux ne sont pas incompatibles, il a 30 ans, jeune, beau et dynamique, et il a été sélectionné, c'est la doublure de la cosmonaute française qui est sélectionnée par l'ESA, c'est-à-dire l'Agence européenne de l'espace. Et donc, lui, il est la doublure. Et donc, M. Arnaud Pro, comment on a pu avoir contact avec lui ? Ben, c'est tout simplement un des petits-fils de Michel Lepilouer. Michel Lepilouer, qui est notre philosophe. Donc, il faut avoir des relations quand on est à l'UTB. Il faut utiliser les liens familiaux des uns et des autres. Donc, il a accepté. Donc, quand il n'est pas dans les fusées, ou dans les labos, ou dans les centres d'entraînement, on fera une fenêtre de tir, comme on dit, pour les fusées, pour qu'ils viennent nous parler. Voilà. Et puis voilà un gars dont je voulais vous parler, Monsieur Engenieux. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là, Monsieur Engenieux ? Vous en fichez complètement. Monsieur Engenieux, c'est un ingénieur des arts et métiers, c'est déjà une qualité. Hein. Il est mort, hein, je vous rassure tout de suite. Et il a inventé le zoom, ce qu'on appelle le zoom, c'est-à-dire l'objectif à focale variable. C'est vraiment un personnage comme on n'en a plus dans notre industrie, qui était le gourou, si vous voulez, de l'optique. Voilà. Et M. Levaillant, il est déjà venu l'an dernier, vous vous souvenez, c'est celui qui nous a parlé des lasers, des applications des lasers. Vous vous souvenez de ça ? Vous y étiez ? Vous avez oublié déjà. Vous m'avez dit à la fin, il va trop vite, j'ai pas réussi à tout comprendre. Les lasers qu'on utilise par exemple pour faire les opérations de la cataracte, si vous voulez. Alors là, c'est le zoom, alors il est très fier, enfin il est très fier, il était très fier puisque tous les appareils photos qui sont sur les missions Apollo, qui ont pris les photos que tout le monde connaît sur la Lune, il n'y a que des objectifs ingénieux. Voilà. Vive la France. Voilà. Et puis, on termine un peu avec le nucléaire. Hein. C'est à la mode en ce moment. Et comme vous savez que je suis un ancien du système, donc on va demander à M. Ménager. Monsieur Ménager, c'est le directeur des débats publics sur l'EPR2. Alors, l'EPR, vous en avez entendu parler, c'est la centrale qui est à Flamanville et qu'on n'arrive pas à démarrer, qui coûte des sommes absolument astronomiques pour des tas de raisons. Et c'est pour ça qu'on a fait une version 2 qui a l'ambition d'être plus simple, moins coûteuse, moins longue à fabriquer, patati patata. Alors, en quoi elle est spécifique ? Faut l'expliquer. On a eu déjà une conférence en visioconférence au mois de février, et là il va venir en chair et en os nous parler de tout ça dans le détail. Et puis je vous montre celui-là. Ah, est-ce que vous connaissez Yves Bréchet ? Yves Bréchet, il a été de 2012 à 2018 le haut commissaire à l'énergie atomique. C'est quelque chose qui a été inventé par monsieur le général de Gaulle en 1945. Je rappelle, en 1945, il a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui le CEA, en novembre 1945. C'est-à-dire, on dit, la fission, enfin les choses atomiques, c'est un organisme civil qui va s'en occuper, et non pas un organisme militaire. L'équivalent du CEA aux États-Unis, ça n'a été fondé que le 1er janvier 1947. Donc la France est le premier pays qui a fait une organisation civile de gestion du nucléaire. Donc il y a eu différents hauts commissaires, donc c'est la tête pensante, on va dire, mais il n'est pas opérationnel, c'est le conseiller, si vous voulez, des politiques pour dire... Et donc il a été dans cette position-là de 2012 à 2018. Il a un caractère de cochon, il s'est une grande gueule, on le voit d'ailleurs. C'est un polytechnicien, bien sûr. X-Mine, il a tout ce qu'il faut comme diplôme et dans la tête. Et il a critiqué violemment les politiques Et vous avez dû lire dans la presse que de octobre 2022 à mars 2023, il y a eu 80 auditions de toutes les vedettes du nucléaire en France, les grandes sociétés, EDF, le CEA, tutti quanti et tout ça, qui ont dit, ben, écoutez, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé quand vous étiez au pouvoir? Et là, on n'a pas été déçus du voyage, puisqu'il y a eu un rapport qui a été largement médiatisé il y a un mois, hein, et qui dit en substance, on a fait des conneries. Je fais court, et tout le monde en a pris plein pour son grade. Alors, comme c'est complexe, donc monsieur Michel Simon, qui est un ingénieur qui travaillait sur Lyon dans le nucléaire, il va nous faire une synthèse de ce travail et puis il va nous prendre quelques exemples pour montrer en quoi il y a eu des bêtises de fait, des bêtises techniques, hein, j'entends. Parce qu'après des bêtises politiques, bon, après c'est du niveau du commentaire. L'égyptologie. Eh bien, on a un professeur qui s'appelle Éric Gadi qui va nous raconter l'histoire de l'égyptologie. C'est-à-dire comment la publicité qui a été faite avec le voyage en basse et haute Égypte par Denon, après il y a eu la description de l'Égypte, la grande encyclopédie qui s'est éditée jusqu'en 1830, et après les Anglais sont passés derrière, et donc l'Égypte est devenue à la mode au XIXe siècle, et ça a continué. Les grands égyptologues, Emma Spero et compagnie, ont continué à aller en Égypte, donc il va nous parler de ça. Évidemment, Champollion, qui a été un maillon incontournable, puisqu'il a réussi à déchiffrer les fameux hiéroglyphes. Et puis un deuxième, qui est le chalonnais de service, c'est François Chabas. Alors celui-là, il est extraordinaire, parce que c'était un négociant. Il n'avait rien à faire avec le machin. Il a tout appris par lui-même. Les langues, les hiéroglyphes, et il s'occupait de son négoce. Et il était président de la chambre de commerce de Châlons. Pendant ce temps-là, il faisait aussi des ouvrages sur l'égyptologie. C'est pour ça qu'on a le fameux square Chabas, où il y a son buste sur son socle, là. Et ça nous a paru intéressant, parce que l'épaisseur des biographies, elle est comme ça. Hein. Pas facile à trouver. Même sur Wikipédia, vous avez une demi-page. Hein. Voilà. Bruno Jacomi, c'est quelqu'un qui a fait, c'est aussi un ingénieur, qui a été dans les musées techniques. Il a été au musée du CNAM en particulier à Paris, et il a fini sa carrière comme directeur adjoint du musée des Confluences. Il habite dans la région, c'est un régional de l'étape. Il avait fait un article, il nous a proposé ça, en disant, mais finalement, quel est le ressort profond qui fait que les scientifiques ont envie de faire de la science? Parce que ça, quand on gratte très fort, ça c'est de la psychologie. On dit, ah ben oui, c'est pour le progrès de la connaissance. Oui, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vient des tripes qui fait que... Alors, il émet une thèse, si vous voulez, c'est dit, c'est l'amour du jeu qui fait qu'on a envie de faire de la technologie. Évidemment, j'ai mis une petite caricature, vous avez reconnu celui-là. Il n'a jamais eu de barbe un jour. Si, il a eu une barbe quand même. Vous ne le reconnaissez pas, celui-là? Puis là vous, ça ne vous dit rien, ça? C'est Galilée, bien sûr. C'est Galilée qui lance une grosse boule, et puis une petite boule. Et puis, il n'a jamais fait ça, hein, mais on dit qu'il a fait ça. Et c'est une expérience de pensée, comme on dit. Et donc, la petite bille, elle arrive en même temps que la grosse bille. Voilà. Ben oui, l'Inquisition disait que c'était pas vrai. Voilà. Même si on leur faisait l'expérience devant eux. Donc, il va nous parler de ça. Et puis, pour conclure, je n'ai presque pas dépassé l'heure, à l'occasion de nos 40 ans, M. Djebbar, qui est le spécialiste comment dire, de l'histoire des sciences et des mathématiques, et surtout des sciences arabes, puisque c'est sa spécialité académique. C'est moi qui lui ai demandé comment faire passer, je suis dans la situation de M. Djebbar aujourd'hui, je vous parle un peu de science, comment faire passer le message de la science au grand public. Pas facile. Il a été prof, il a même été ministre de l'éducation nationale en Algérie, ce monsieur. Donc il connaît le contexte. Mais comment faire passer, alors si c'était facile, ça se saurait. Donc il va essayer de décortiquer les raisons pour lesquelles on a des difficultés à faire passer le message scientifique. Et ça c'est un peu dramatique, puisque aujourd'hui, il y a des gens qui revendiquent, disons, des choix faits par le public sur des choix techniques. Si vous ne comprenez pas ce que les gens vous expliquent, c'est quand même difficile de vous positionner par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc ça, c'est une difficulté majeure. Donc ce sera la conférence, on va dire, de prestige, qui sera, je vous rassure tout de suite, raccourcie dans un format, on va dire, trois quarts d'heure maximum pendant l'anniversaire, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on fasse un bis repetita des conférences de la Maison des syndicats. Voilà. Et donc ce sera au mois d'octobre au conservatoire. Donc nous avons 105 conférences à vous proposer, 72 conférenciers différents. J'insiste beaucoup là-dessus par rapport à d'autres UTB. On a une variété tout à fait. Je fais de la pub pour l'UTB de Chalon, évidemment. Et surtout, régulièrement, on essaye de réinviter de nouvelles personnes pour nous proposer de nouveaux sujets et d'autres façons de faire les conférences. Et puis je fais à nouveau de la pub pour le supplément de 20 euros pour pouvoir réécouter, parce que très souvent, en plein milieu de la saison, on me dit « Ah ben, zut, je n'ai pas réussi à venir à telle ou... Madame Roux, j'avais écrit sur mon carnet, mais là, je ne pouvais pas venir. Comment je vais faire ?» Je dis « Vous prenez le supplément. »« Ah bon, il y a un supplément. Ah bon, je ne sais pas, il faut m'expliquer. Hein. » Bon, je dis « Si vous le preniez au début... » Et non seulement vous pouvez écouter Madame Roux, mais tous les autres conférenciers, hein, depuis que le système est en place. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai donné comme instruction aux bénévoles qui vont reprendre les inscriptions, puisqu'elles vont reprendre à partir du 1er juin, là, comme d'habitude, avec un rabais de 4 euros pour les anciens adhérents, eh bien, de faire du baratin pour convaincre les gens prendre le replay, comme on dit en français, à la télévision. Voilà. Bon, alors, Bon, alors, c'est...